Bon, mais bonjour à toutes et à tous. D'abord, me présenter, donc Marie Cassagne. Vous entendez sûrement le petit accent du Sud. J'arrive du Lot. Ça fait un peu de route pour venir jusqu'à Chambéry. Je suis actuellement doctorante en sciences de l'éducation et de la formation en dernière année de thèse. J'ai été pendant 12 ans travailleuse sociale auprès de publics en situation de grande précarité dans le champ du handicap et puis j'ai terminé dans le champ de la protection de l'enfance et plus particulièrement avec les mineurs non accompagnés. Et donc c'est suite à cette pratique professionnelle que j'ai décidé de retourner à l'université, notamment parce que j'étais confrontée à un certain nombre de difficultés que les travailleurs sociaux dans la salle doivent encore rencontrer. Et donc, ma thèse, elle porte sur l'accompagnement des personnes en situation d'exil. Et je m'intéresse plus particulièrement aux effets du contexte qui est particulièrement contraint dans le champ de l'exil, notamment, et des tensions éthiques et des conflits de valeurs que peut générer ce contexte. Alors, j'ai les slides qui avancent toutes seules. Voilà. Donc aujourd'hui, je viens pour parler de la question de la posture d'accompagnement. Donc la posture d'accompagnement qui va se théoriser de différentes manières, mais il y aura aussi des éclairages pratiques, notamment en lien avec les résultats de mes travaux de thèse. Voilà. Donc je voudrais, avant de commencer, exprimer ma gratitude déjà à François Riette, que j'ai perdu. Ah si, il est juste en face de moi. À Natacha Arambourg, donc qui était avec nous pour le Serious Game, et Anne-Marie Ferroux, donc de l'association Respect 73, qui ont été mes principaux interlocuteurs pour la préparation donc de cette conférence. Alors, pour dérouler donc ma réflexion, je vous l'ai dit tout à l'heure, je m'appuierai donc sur mes travaux de thèse sur l'accompagnement donc des personnes en situation d'exil, qui ont eux-mêmes été guidés par d'autres auteurs. François en a parlé tout à l'heure, notamment ceux de Maëlla Paul, qui a consacré ses 30 dernières années à essayer de comprendre ce qu'accompagner veut dire. Bon, pour ne rien vous cacher, elle est dans mon comité de suivi de thèse, donc elle suit de près mes travaux. Voilà, alors je démarrerai du coup déjà en rappelant, et je l'ai entendu tout à l'heure sur les premières présentations, que l'accompagnement, c'est d'abord une commande sociale. Avec des politiques publiques donc, qui donnent finalement corps et qui viennent concrétiser les dispositifs d'accompagnement. Et donc, dans mes travaux, ce cadre politique, et notamment la question des politiques migratoires et des politiques de protection de l'enfance, je l'aborde certes d'un point de vue juridique et technique. Alors, je vous passe l'analyse des évolutions des politiques migratoires depuis 1789. Voilà, ça ne va pas en s'arrangeant. Et donc, je m'intéresse donc du coup à ce cadre qu'on va appeler un cadre institué, c'est-à-dire un cadre qui est imposé de l'extérieur et qui est finalement assez contraint. Donc, au-delà de l'étude donc de ces politiques publiques et plus particulièrement des politiques sociales qui encadrent donc les pratiques d'accompagnement, ce qui m'intéresse, c'est aussi et surtout les représentations que les professionnels se font de ce cadre. S'ils le perçoivent comme structurant ou s'ils le perçoivent comme conflictuel, puisqu'on verra que le cadre d'intervention, il peut aussi structurer les pratiques. Donc j'ai analysé les représentations que les professionnels se faisaient de ce cadre d'intervention, puisqu'il me semblait que c'était une bonne manière d'appréhender la manière dont, en tant que travailleur social, on navigue dans ce cadre. Alors attendez, je manipule. Tout, je crois que j'ai la souris, j'ai perdu, ça y est, hop, voilà. Alors, j'imagine que dans la salle, il y en a beaucoup qui connaissent Edgar Morin. Voilà. Edgar Morin, il écrit que le système ne peut être compris qu'en incluant en lui l'environnement qui lui est à la fois intime et étranger et qui fait partie de lui-même tout en lui étant extérieur. Alors, ce préambule, finalement, pour rappeler que le contexte politique qui s'opérationnalise, on l'a dit, sous la forme d'une commande sociale au sein des institutions et des dispositifs d'accompagnement, eh bien, c'est un élément du système au sein duquel les travailleurs sociaux exercent ou tentent d'exercer les missions qui leur sont confiées. Aujourd'hui, je ne vous apprends rien, le politique, dans un contexte de restrictions budgétaires, vient interroger les fondamentaux de l'État-providence. Alors, je ne viens pas ici pour trancher les débats politiques et idéologiques qui sont en cours, même si vous doutez bien, j'ai mon avis à ce sujet. Il me semble utile déjà de rappeler que ce contexte, eh bien, il est en lien avec la doxa néolibérale qui envahit en ce moment l'espace public, qui va valoriser des individus autonomes et libres. Et cette doxa, elle serait en réalité une manière de contrôler les individus via les normes sociales qu'il s'agirait de faire appliquer à travers donc, des dispositifs d'insertion. Des dispositifs d'insertion qui permettraient de sortir d'une logique de droit sans contrepartie. Voilà, on est là-dedans en ce moment. Et donc, dans ce contexte, les travailleurs sociaux, eh bien, ils s'adaptent aux logiques de rentabilité qui traversent actuellement le secteur, avec parfois le risque de transformer le travail social en une logique de service sur le modèle marchand. Et puis finalement, de perdre le sens du métier. Alors, dans le cadre de mes travaux, les professionnels, ils identifient ce cadre autour de deux pôles. Ils vont parler du cadre politique qui apparaît fortement distancié des pratiques, même complètement déconnecté à certains moments. Et puis le cadre institutionnel qui est en charge de mettre en œuvre ce cadre politique qui, lui, va être perçu comme moins distant et qui fait l'objet de plus fréquentes remises en question. Alors, de manière très factuelle, durant ma thèse, j'ai interrogé à plusieurs reprises les professionnels sur leur représentation du cadre politique. Il a fallu que j'insiste un petit peu. Alors certains professionnels m'ont donné leur avis, mais finalement assez peu, en prétextant que dans le travail social, on évite de faire de la politique, pour les citer. Et pourtant, le travail social, et plus spécifiquement l'accompagnement social, c'est une pratique éminemment politique, du fait du cadre dans lequel elle s'inscrit. Je pense même que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est très politique. Voilà. Alors j'ai découvert au cours de mes travaux de recherche que ce parti pris... qui était un parti pris apolitique, il s'inscrivait dans ce qu'on appelle l'éthos de la profession, dans les valeurs fondatrices et dans la manière attendue de mettre en acte ces valeurs. Alors si on remonte un petit peu loin, puisque je me suis beaucoup appuyée sur une analyse socio-historique, si on remonte en 1928, qui est la date de la première conférence internationale de service social, il était rappelé que les établissements et les intervenants sociaux devaient avoir un caractère neutre, et s'interdire d'exercer une influence donnée. On avait même en 1931 l'abbé Viollet, qui était un précurseur en matière d'intervention sociale, qui revendiquait la neutralisation axiologique en opposition avec la moralisation des pauvres qui prévalait jusqu'alors. Dans le même mouvement, je me suis ainsi intéressée au service social d'aide aux émigrants qui a notamment été créé en 1924 et qui a été remplacé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Et donc ce service, y compris sous l'occupation nazie, alors c'était un service financé par l'État français, sous l'occupation nazie, ce service, il affichait un positionnement qui était apolitique. Mais ce qui est intéressant de souligner, c'est que ce positionnement qui est donc, on l'a vu, ancré dans les valeurs et l'éthos du travail social, eh bien ça n'a pas empêché dans les périodes les plus sombres de l'histoire, notamment au moment de la déportation de nombreux juifs, alors quand ils étaient en plus étrangers, c'était encore plus compliqué, ça n'a pas empêché donc des opérations de résistance civile et humanitaire dans le travail social, avec des travailleurs sociaux qui se sont énormément exposés, vous doutez bien, pour préserver cette fois les valeurs humanistes du travail social. Alors ces éléments, assez rapidement pour vous dire que malgré la complexité du sujet, eh bien, l'accompagnement ne peut pas être déconnecté des enjeux politiques qui assurent son existence au sein des dispositifs et qu'il est aussi important de le considérer à l'aune de ce que les professionnels perçoivent de ce contexte parce que cette perception elle va forcément orienter les pratiques d'intervention. Alors on peut désormais se dire, en écho à ces premières remarques, que l'accompagnement, eh bien, c'est une pratique professionnelle située. Située donc dans un contexte politique et institutionnel, mais également dans un contexte temporel. On a parlé du temps depuis ce matin. Donc à une époque donnée. Chaque époque est différente. Là, on est dans une époque qui est une époque que des auteurs qualifient de néolibérale. Donc cette pratique, elle est dépendante de logiques que les professionnels doivent prendre en compte et qui se constituent en autant de contraintes qui vont être plus ou moins structurantes pour les pratiques. Alors, dans le cadre des recherches-actions que j'ai menées durant ma thèse, puisque je n'ai pas précisé que ce n'est pas un travail de recherche purement théorique, je suis allée passer presque 2 années et demie sur 2 terrains, dans une maison d'enfants qui accueille des mineurs non accompagnés et dans un centre d'accueil des demandeurs d'asile. Donc, pendant ces travaux, je me suis appuyée aussi sur les travaux de Demailly Et ça m'a permis donc de nommer les contradictions des contextes dans lesquels je suis intervenue comme étant des phénomènes de métonymie institutionnelle. Alors je me rappelle la première fois où j'ai sorti ce gros mot dans le cadre d'une recherche action, il y a une maîtresse de maison qui m'a dit « je ne sais pas pourquoi vous employez des mots si compliqués, moi je ne comprends pas ce que vous racontez ». Et à ce moment-là, je lui ai répondu « vous avez le cul entre deux chaises, c'est ce qu'on dit dans le Sud, c'est-à-dire vous êtes entre les politiques migratoires et les politiques de protection de l'enfance ». Voilà, petit aparté. Alors du coup, c'était notamment le cas donc des services qui accueillaient les mineurs non accompagnés, qui se situent, je viens de le dire d'une manière très vulgarisée, à l'interface donc des politiques migratoires et des politiques de protection de l'enfance. Et ce contexte, il amène les professionnels, et notamment pour la plupart des éducateurs, pour dépasser les contradictions, eh bien, à développer des connaissances très techniques sur le droit des étrangers, dans un contexte donc idéologique qui vient forcément heurter les valeurs des travailleurs sociaux. Alors à partir de ces quelques réflexions sur le contexte d'intervention, donc qui est, on l'a vu, à la fois social, politique, idéologique, institutionnel, on peut déjà poser que l'accompagnement, ça n'est pas qu'affaire de relations à autrui, mais c'est aussi un rapport social. Là, on a Didier Schwint qui fait à ce sujet trois propositions qui me semblent vraiment intéressantes pour interroger la fonction politique de l'accompagnement. Alors, il rappelle d'abord que l'accompagnement, c'est un nouveau paradigme essentiel du nouveau système sociopolitique centré sur l'individualisme libéral. Donc, je l'ai déjà dit. Et cet auteur, il nous invite finalement à réfléchir à ces injonctions à l'autonomie et à la responsabilisation des publics que posent, voire imposent, les dispositifs d'accompagnement et d'insertion, ou en tout cas au moins les dispositifs qui permettent d'accompagner vers le soin, et puis d'interroger les fondements idéologiques de ces dispositifs pour ne pas tomber dans le piège de faire croire aux personnes qu'elles sont les uniques responsables de ce qui leur arrive. Ensuite, il indique, cet auteur, que l'accompagnement, il met en œuvre un système paradoxal d'émancipation et de domination, et il propose de déployer donc des compétences réflexives qui permettraient finalement de sortir de cette impasse. Alors, à titre d'exemple, on peut évoquer donc les dispositifs qui appellent à l'autonomisation des publics et qui contraignent dans le même temps les choix que les personnes peuvent faire dans une forme de tentative de normalisation des comportements. Et donc, analyser donc ces rapports de domination, c'est, me semble-t-il, l'occasion de prendre un peu de recul avec ces injonctions pour laisser une place à l'autonomie dans son acception finalement philosophique. C'est-à-dire comme capacité à opérer ses propres choix et en assumer la responsabilité. La dernière proposition de cet auteur, elle consiste à faciliter le développement d'une émancipation globale et sociale de l'individu en soutenant une pratique éthique qui va devenir à ce moment-là un acte sociopolitique. Donc là, je le cite. Du coup, l'éthique de l'accompagnement et les visées d'émancipation, elles ne sont pas qu'à questionner dans le cadre de la relation individuelle, sur laquelle on reviendra ensuite. Elles se situent donc dans ce rapport social qui va questionner notre système social et l'éthique dans sa dimension cette fois sociétale. Bon, ce qui rend probablement nécessaire la pratique du plaidoyer dans le champ du travail social pour donner à voir à la société les souffrances et les difficultés quotidiennes auxquelles bon nombre de personnes sont confrontées. Ceci étant dit, je propose qu'on fasse un petit peu en entonnoir et qu'on aille maintenant interroger la fonction technique de l'accompagnement. Alors, la fonction technique de l'accompagnement, c'est l'idée d'un traitement individualisé des problèmes avec des exigences collectives, on l'a un petit peu compris avec le contexte social, dans des dispositifs dédiés qui s'adressent à des catégories sociales ou administratives d'individus. Alors, on va avoir des dispositifs dédiés aux moins de 26 ans, des dispositifs pour les bénéficiaires du RSA, des dispositifs d'accompagnement pour les personnes en situation de handicap, et puis bon, plein d'autres. Voilà. La fonction technique, elle est donc explicitement en lien avec les contextes politiques et institutionnels qui viennent finalement opérationnaliser les intentions du politique ou de l'institution. C'est ce que j'ai nommé, à la suite donc, des entretiens que j'ai réalisés dans ma thèse, le travail social prescrit. C'est finalement ce qui va encadrer la nature de la relation d'accompagnement. Alors, on a d'autres auteurs, Bonasio et Vérac, qui se trouvent être dans le laboratoire de recherche où je réalise ma thèse, qui indiquent dans un chapitre collectif qu'il existe deux types de prescriptions. La première prescription, elle relève du sens commun, c'est l'injonction de faire qui va être émise par une autorité, ce qu'on nomme la prescription officielle. Elle est issue donc de l'institution de référence à laquelle appartient le travailleur et elle est porteuse d'une dimension hiérarchique. Voilà, les lois, elles arrivent, on doit les appliquer. Et puis, dans son acception plus large, la prescription, c'est aussi les normes, les valeurs professionnelles et de manière plus globale, l'éthos professionnel. C'est tout ce qu'on enseigne notamment aux étudiants quand ils rentrent dans la profession. Alors, au-delà de la nature exacte, technique, pourrait-on dire, des prescriptions officielles qui encadrent les missions des travailleurs sociaux que j'ai interviewés, j'ai focalisé, vous, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc mon attention sur la manière dont les travailleurs sociaux se représentent ce contexte, entre dimensions, je vous l'ai dit, structurantes et conflictuelles. Cette opposition elle permet de souligner, comme l'écrivent Molini et Perrenou, que la prescription en soi, elle n'est ni bonne ni mauvaise par définition. Mais ce dont le praticien a besoin, c'est d'un prescrit intelligent qui permette de se sentir efficace et légitime. Donc du coup, lorsque la prescription elle est perçue positivement, eh bien, elle est mise en œuvre sans que cela pose de difficultés particulières. Par contre, lorsqu'elle est évaluée négativement, plusieurs stratégies vont émerger et qui vont forcément impacter la manière d'accompagner le public. On va avoir d'abord une stratégie qui est celle du refus explicite, qui va se manifester sous la forme d'exit, donc de sortie, ou sous la forme voice, c'est-à-dire donner la voix, avec donc soit une sortie du système qui peut s'exprimer par la démission, un arrêt maladie, un changement de poste, une revendication, où l'expression est censée infléchir les dynamiques prescriptives. Alors ce type de stratégie peut d'ailleurs conduire des chercheurs à se faire l'écho de cette forme de résistance, à se faire l'écho de cette forme d'appropriation en appelant à des formes de résistance. Alors c'est ce qu'on a tenté de faire avec la publication d'un article dans le champ de l'asile, notamment avec les professionnels ayant participé aux recherches actions. On a choisi l'option voice. Voilà. Et puis on a également publié une BD sur l'accompagnement des mineurs non accompagnés avec l'autre terrain, pareil, pour visibiliser les tensions qui traversent les pratiques professionnelles des travailleurs sociaux. Et puis avec ma directrice de thèse, Sabrina Labbé, et un autre collègue, Olivier Kérouffi, on a écrit un article qu'on a publié dans la revue Le Sociographe, qu'on a nommé de manière un peu subversive, on en a beaucoup discuté de ce titre d'ailleurs, La recherche en travail social comme espace de résistance. Et puis on a une autre stratégie qui, elle, va relever du conformisme subi, avec des travailleurs sociaux qui acceptent finalement de se conformer aux prescriptions auxquelles ils ne souhaitent pas se conformer. Alors une position qui du coup présente tout un tas de risques psychosociaux bien entendu puisque ça va créer beaucoup de conflits de valeurs. La plupart d'ailleurs des situations de burn-out dans le champ du travail social sont en lien avec ces conflits de valeurs. C'est pas en lien avec la charge de travail. Et puis une dernière stratégie qui est plus communément nommée dans le champ du travail social, le braconnage, finalement qui va rencontre d'un conformisme de façade qui va consister à faire semblant et à détourner le but de la prescription. Donc ce dernier exemple, que j'ai d'ailleurs appelé à certains moments dans le cadre des recherches actions, ce qui relevait des pratiques clandestines, il va illustrer un dépassement des dilemmes qui sont inscrits dans les tensions entre d'une part la loyauté envers un système de travail et d'autre part les enjeux éducatifs à atteindre dans un contexte qui est caractérisé par la responsabilisation. Donc par rapport à ces réflexions, on va avoir l'idée d'interroger la satisfaction et le bien-être au travail des travailleurs sociaux. Puisque la prescription, lorsqu'elle s'octroie le monopole de la définition du métier au nom d'impératifs indiscutés, elle peut devenir source de souffrance au travail. On a encore Bonasio et Vérac qui indiquent à ce sujet, en s'appuyant sur les travaux de De Gaulle et Jacques, que certains doivent très certainement connaître, que cette souffrance, elle résulte d'un empêchement au travail, d'une perte de sens et des valeurs que les acteurs placent au cœur de leur travail. Alors, parmi les outils techniques qui peuvent contribuer à cette perte de sens, on va retrouver entre autres les documents de contractualisation et le projet personnalisé. Moi, j'entends beaucoup parler du projet personnalisé en ce moment. Ces documents, donc, qui résultent des enjeux de la loi 2002 sur le droit des usagers, mais ils posent encore questions et parfois difficultés sur le terrain, notamment quand ils ne font pas sens. Alors pourtant, au-delà d'être des outils qui relèvent donc de l'institué, c'est-à-dire du cadre prescrit avec lequel on est plus ou moins d'accord mais avec lequel il faut bien composer, ils peuvent aussi devenir des outils qui relèvent de l'instituant cette fois. On a Maëlla Paul, que j'ai cité tout à l'heure, qui évoque à ce sujet une opération technique d'essence juridique et un processus d'essence socialisante. Alors je suppose ici dans la salle que vous êtes à peu près tous concernés par la contractualisation de l'accompagnement avec les publics qui viennent à votre rencontre. Cette opération, c'est d'abord une tâche administrative, une opération technique. Elle va définir la nature du rapport que vous entretiendrez avec les personnes accompagnées. Elle va donner en quelque sorte la couleur de la relation d'accompagnement. Elle va la border et c'est probablement nécessaire. Mais la contractualisation, elle doit même devenir un espace de type relationnel où le rapport va devenir lien. Et puis donc, puisqu'il est progressivement question de relation d'accompagnement, j'aimerais bien qu'on distingue ensemble ce qui relève justement de ce rapport et de ce lien. On va voir le rapport. Le rapport, c'est ce qui va d'abord permettre à un professionnel, vous en l'occurrence, d'entrer en relation avec une personne dans le cadre d'un mandat, dans le cadre d'une prescription. C'est ce qu'on appelle donc la dimension instituée et qu'on pourrait aussi définir comme étant le cadre de la relation, les rôles que chacun doit occuper depuis la place qui lui est assignée. C'est un cadre qui est nécessaire pour situer ses interventions et parfois se poser aussi des limites à l'engagement professionnel. Alors ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt ce qui relève du lien, c'est-à-dire ce qui implique davantage de symétrie, une symétrie qui est nécessaire donc à la création d'un lien de confiance, au dialogue et finalement à la coopération. C'est ce qu'on appelle donc la dimension instituante de la relation d'accompagnement qui va dépendre de ce qu'insuffle le professionnel et de ce que met en jeu aussi la personne accompagnée, puisqu'on sait très bien qu'on aura beau faire la même chose avec deux personnes différentes, ça ne produira pas la même chose. Cette symétrie, elle va supposer donc un idéal égalitaire. Alors je dis bien idéal parce que le cadre de la relation, il sous-tend une dissymétrie qui est incompressible. Et donc cet idéal, il implique de ne pas ou de ne plus dire à autrui le chemin qu'il doit prendre et de mettre à distance finalement une obéissance délétère à l'autonomie que prônent voire imposent nos sociétés néolibérales contemporaines. Alors la posture d'accompagnement, si elle est faite d'écoute, elle va donc se mailler de conseils que la personne prendra ou dont elle ne se saisira pas. Donc pour le professionnel, ça va impliquer de prendre en compte la vulnérabilité et les manques quand ils existent et sont manifestes, mais aussi de ne veiller à ne pas enfermer la personne dans ses incapacités, dans ses fragilités, et de s'appuyer sur ses savoirs, ses savoir-faire, ses savoir-être qui sont déjà là. C'est une vigilance éthique qui entend donc articuler les savoirs professionnels, experts, pourrait-on dire, aux savoirs expérientiels. Je l'ai un petit peu entendu sur les propos introductifs ce matin. Et finalement, cette articulation, elle peut contribuer à ouvrir d'autres possibles dans le cadre de l'accompagnement et à redonner, cette fois, au projet personnalisé ses lettres de noblesse. Le projet personnalisé, donc, si j'en viens à ça, dans ses dimensions techniques, il peut être en effet vécu comme un outil de normalisation qui va tracer le chemin à parcourir sans se soucier de ce qui est important pour les personnes accompagnées. Alors la dimension technique et réglementaire du projet personnalisé, elle pourrait nous amener à faire fi des dimensions existentielles du projet personnalisé et finalement devenir une entrave au processus d'autonomisation et même d'autonomie qui est pourtant promue par les dispositifs. Également, donc, accompagner les personnes dans leur projet à partir de leurs difficultés et de leurs manques plutôt que de leurs capacités, ce n'est pas non plus sans conséquence sur la posture d'accompagnement. En effet, accompagner à partir des manques qui sont d'ailleurs parfois définis en écho aussi aux connaissances ou aux représentations qu'on se fait du public, on se raconte beaucoup d'histoires sur les gens qu'on accompagne, ça amène à se positionner en diagnosticien pour soigner, réparer, normaliser. Et ces positionnements, ils ne permettent pas à la personne de se mettre en mouvement à propos de ce qui la concerne, puisque d'autres ont défini pour elle ce qu'il était bon de faire ou de ne pas faire. Par contre, se positionner en passeur, alors je dis aussi en facilitateur, puisqu'il y a des personnes qui m'ont dit qu'il ne faut pas parler de passeur avec les personnes exilées, donc en passeur ou facilitateur, c'est créer les conditions à partir des capacités et possibilités de l'environnement pour que la personne se mette en mouvement à partir de ce qui la concerne, mais aussi de ce qui l'anime et de ce qui est important pour elle, ici et maintenant. Alors je trouve, pour illustrer mon propos, tout à fait intéressant de mentionner dans les projets personnalisés, y compris dans leur forme la plus institutionnalisée, les rêves auxquels les personnes aspirent, pour sortir de cette logique des chemins tracés et pour accéder à une véritable reconnaissance et puis redonner un petit peu de dignité à tout ça. Parce que finalement, des rêves, on en a tous. Voilà. Bon, sauf que s'il est impératif de défendre ces utopies concrètes, elles se heurtent parfois à un travail social empêché. Et c'est cette dimension que j'aimerais qu'on aille regarder de près maintenant. Alors, cette dimension empêchée, on va l'explorer à travers la fonction pratique de l'accompagnement qui va découler des fonctions politiques et techniques et qui va dépendre notamment, ben, on l'a dit, hein, des budgets, des outils, des temporalités et qui va mettre en tension finalement les attentes du politique et des institutions avec les attentes des professionnels, mais aussi les attentes des personnes accompagnées. Alors, cette fonction pratique, elle n'est pas non plus en paradoxe. Donc, c'est notamment le cas des établissements sociaux et médico-sociaux qui sont incités à soutenir, je prends cet exemple-là parce que je le trouve assez parlant, à soutenir l'autodétermination et le pouvoir d'agir des personnes accueillies et accompagnées. Donc, ça fait partie d'ailleurs des recommandations de la Haute Autorité de Santé. Alors, l'intention, elle relève bien d'enjeux éthiques, ceux consistant à défendre la dignité humaine, mais ces notions, elles peuvent parfois faire l'objet d'incompréhension ou de réattribution à d'autres fins. Alors, c'est le cas, par exemple, de directions d'établissements, et j'ai déjà été sollicitée en ce sens, c'est pour ça que j'en parle, qui souhaitent développer ce type d'approche pour faire face aux restrictions budgétaires, en incitant les personnes à faire le maximum de choses par elles-mêmes, sous couvert de pouvoir d'agir et d'autodétermination. Et puis, on va avoir un autre paradoxe de ces deux approches, c'est leur cohabitation avec les enjeux sécuritaires aussi de nos sociétés contemporaines. Alors là, cette fois, c'est des professionnels que j'ai rencontrés dans le cadre de groupes d'analyse de pratique qui m'ont fait part donc, de leur difficulté à soutenir l'autodétermination des personnes déficientes. Et donc, ils m'ont dit bah, c'est risqué de leur laisser le choix, de leur permettre de faire. Bon, le constat qu'ils faisaient collectivement, il était tout à fait légitime et il fallait vraiment que je puisse entendre leurs craintes pour qu'on puisse avancer ensemble. Je voyais bien que leur questionnement sur les principes de l'autodétermination, eh bien, ça ne remettait pas en question la plus-value éthique de cette approche. Ce n'était pas de ça dont il était question. Donc, il fallait qu'on sorte de l'impasse. Donc, on a pour cela réfléchi ensemble à une notion. Bon, là, je vous la fais vite, mais en réalité, j'ai fait quelques petites recherches avant, sur la question de la dignité du risque. Et cette notion, j'aimerais bien vous en dire quelques mots parce que je pense qu'elle peut être intéressante quand on questionne l'accompagnement. Donc cette notion, elle date de 1972 et donc on avait à cette époque-là un auteur, Persk, qui affirmait qu'empêcher les personnes présentant une déficience intellectuelle de s'exposer à des risques normaux avait un effet délétère sur leur développement personnel et sur leur dignité, en plus de renforcer la présomption d'incompétence qui pèse encore trop souvent sur elles. Donc l'exploration de cette notion, elle nous a permis de reposer ensemble les principes de l'autodétermination. On l'a reposé comme un processus d'apprentissage plutôt que comme une unique injonction à faire des choix. Parce que les professionnels étaient vraiment dans cette idée, il faut qu'ils fassent des choix. Sauf que l'autodétermination, c'est avant tout un processus d'apprentissage. Et donc pour ça, on a analysé la situation d'une jeune femme qui présentait une déficience intellectuelle et qui souhaitait passer du temps avec son compagnon. Compagnon qui était lui-même déficient intellectuel. Elle habitait dans un foyer d'hébergement et elle n'avait pas le droit de sortir le soir après 22 heures. C'était les règles institutionnelles. Elle ne pouvait pas sortir du foyer, il fallait qu'elle soit dans sa chambre. Et donc, au fur et à mesure, dans la réflexion, on a compris que la règle institutionnelle qui était censée la protéger, voire la surprotéger, eh bien, en fait, elle la mettait en danger. Alors pourquoi, à votre avis ? Eh bien, parce que cette jeune femme, elle transgressait systématiquement la règle. C'est-à-dire qu'elle attendait que le veilleur ait fait le tour. Et à 22h, 22h15, elle partait, elle s'enfuyait avec son compagnon. Ça ne permettait pas finalement aux professionnels d'accompagner cette jeune femme dans ses désirs de manière sécurisée. Et finalement, on s'est aperçu que c'était sa possibilité d'apprendre à ce moment-là qui lui était refusée. Et que sa dignité était même niée à ce moment-là. Les professionnels, ils ont donc décidé, dans le cadre du projet personnalisé, de mettre un accompagnement en dehors du cadre institutionnel pour permettre à cette jeune femme donc, de vivre en toute sécurité l'amour qu'elle avait besoin de vivre. Donc je trouve que cet exemple, il est vraiment éclairant pour se dire que si parfois on a l'impression que les injonctions politiques ou institutionnelles ne sont pas congruentes avec le réel de l'activité, il est aussi possible par la réflexion collective de tenter de dépasser ces clivages en recherchant des solutions finalement alternatives pour redonner du sens aux dimensions éthiques de l'accompagnement. Alors ces réflexions prises collectivement et parfois validées institutionnellement, ça a été le cas pour cette jeune femme, elles vont accompagner la construction ou la reconstruction permanente du positionnement professionnel dont j'aimerais maintenant discuter avec vous. Donc, voyez, on avance tout doucement. Alors d'abord, quelques petites clarifications sémantiques sur le positionnement, la posture. Donc la position, c'est ce qui caractérise la manière dont une chose ou une personne est posée, placée, située. Et ça peut renvoyer à la force, au pouvoir, au sens d'exercer une autorité sur quelqu'un. Ça va être concrètement la position que vous donne l'institution pour interagir avec la personne accompagnée dans un cadre de travail, on l'a dit, institué et prescrit. Et puis le positionnement professionnel, en s'engageant lui dans une démarche réflexive, il va permettre de prendre des décisions, de faire des choix d'intervention. Alors souvent en tension entre le cadre de l'institution, ses normes, ses règles, mais aussi l'éthique et la déontologie, et puis aussi en lien avec ce qui est important pour la personne accompagnée. Je pense que ça, il ne faut pas l'oublier. On a une auteure, Portal, qui ajoute que le positionnement professionnel, il va participer de la construction de l'identité professionnelle chez les travailleurs sociaux. Ce positionnement, il trouve donc ses ancrages dans la manière dont les professionnels sont ancrés dans la profession et dans la manière dont ils l'ont expérimenté au fil des années. Et puis la posture, elle consiste, elle, en une manière d'appréhender l'exercice de sa profession et elle permet de se donner une ligne de conduite avec beaucoup plus de liberté. Notamment lorsqu'il s'agit de se positionner vis-à-vis des enjeux de l'institution ou des règles du métier. La posture, elle caractérise donc la manière dont l'intervenant se positionne dans la relation d'aide en fonction des missions qui lui sont attribuées, mais aussi au regard de ce qu'il privilégie ou pas et qui va finalement lui donner quelques petites marges de manœuvre. La posture, vous doutez bien, elle impacte la relation d'accompagnement en renforçant donc sa dimension réflexive. Et par rapport à ça, il y a un truc très fort qui est ressorti dans les entretiens que j'ai réalisés dans la thèse, c'est la dialectique distance-proximité dans la posture. On ne sait jamais si on doit être à la bonne distance ou à la juste proximité. Bon. Et donc ça me semble intéressant à explorer pour illustrer la manière dont les professionnels se positionnent dans la relation et finalement affinent un petit peu leur posture. Donc la dialectique distance-proximité, elle s'inscrit finalement dans un continuum qui va relever des normes professionnelles et finalement d'identité professionnelle. Puisqu'il est attendu des travailleurs sociaux qu'ils fassent montre de bienveillance, d'empathie et d'écoute, mais pour autant, ils doivent garder une bonne distance professionnelle. Et donc, si j'osais un petit peu les antagonismes, je dirais que cette proximité relationnelle à juste distance, eh bien, elle implique une éthique du care en contexte qui est parfois contraint. Entre un pôle qui vise finalement à préserver les enjeux éthiques de l'accompagnement, donc en prenant soin des personnes, et puis entre un autre pôle qui va consister à se préserver d'un accompagnement qui implique aussi une forte implication professionnelle et une charge émotionnelle importante. Donc tout ça, ça va impliquer de mettre en place des garde-fous dans les institutions avec la mise en œuvre de réflexions collectives dans le quotidien de l'activité professionnelle, avec l'instauration d'espaces où les professionnels sont autorisés sans jugement à faire état des difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Alors des difficultés qui vont être technico-juridiques, mais aussi relationnelles avec les personnes accompagnées des fois. C'est pas simple. Des difficultés qui sont aussi en lien avec le travail d'équipe, avec les partenaires, et puis des fois dans le lien avec l'institution. Donc ceci étant dit, j'aimerais bien qu'on aille maintenant voir les dimensions vraiment instituantes et réflexives de l'accompagnement. Alors, si je devais faire un petit point de synthèse, je dirais que dans des contextes donc institutionnalisés, qui mettent à certains égards en tension les valeurs professionnelles, il reste à créer les conditions instituantes d'accueil et d'échange. Tout n'est pas perdu. Notamment dans l'idée que les dimensions juridiques, techniques et pratiques de l'accompagnement ne viennent pas tout envahir. La question, c'est finalement de savoir comment soutenir la dimension existentielle de l'accompagnement pour permettre aux personnes accompagnées de devenir les sujets de leur existence. Et pour cela, je pense qu'un détour par les valeurs du travail social, c'est une piste vraiment intéressante. Alors, on a Brigitte Bouquet, je ne sais pas si certains l'ont déjà lu, c'est vraiment intéressant, qui pose que les valeurs du travail social, elles se sont construites donc tout au long de son histoire et elles sont à la fois humanistes, fondées sur le droit et démocratiques. Elles s'appuient notamment sur les travaux du Conseil supérieur du travail social de 2009 et elles synthétisent ces valeurs en écrivant que cela traduit un métier d'aide qui s'inscrit dans un registre humaniste, qui s'appuie sur une volonté active de solidarité et de création de liens, et qui tend à renforcer l'humanité de la société en développant l'humanité de ceux qui ont des difficultés à la faire valoir. Accompagner, ça implique donc de prendre appui sur ce socle de valeurs qui participe finalement à la construction de ce qu'on appelle une identité axiologique, c'est-à-dire l'identité construite sur les valeurs. Et donc, à travers ces éléments, on saisit que les valeurs, en tant que repères pour agir, ont une dimension certes instituée, puisqu'elles font l'objet de transmissions, tout particulièrement au moment de l'entrée dans le métier, pour les jeunes professionnels. Et ce sont elles qui vont finalement fonder l'éthos professionnel. L'éthos professionnel, c'est finalement un ensemble de valeurs qui vont se concrétiser dans l'activité professionnelle. Donc au fur et à mesure de son entrée dans le métier, de ses expériences, on va avoir la construction du soi professionnel qui va s'articuler autour des normes, des valeurs du métier qui sont transmises lors de la formation et au cours des expériences. Et donc ces trois types de valeurs dont je viens de faire part, elles sont d'abord professées et puis au bout d'un moment, il va bien falloir qu'elles soient agies, c'est-à-dire intériorisées et mises en acte. Les valeurs instituantes, elles vont émerger quand il y a des conflits de valeurs, c'est-à-dire quand à un moment donné, on n'arrive plus à les mettre en œuvre, ces valeurs sur le terrain, en lien avec ce contexte d'intervention. Et donc, ça va permettre de considérer l'éthos professionnel d'un point de vue plus praxéologique. C'est-à-dire finalement d'intégrer la nécessaire dimension réflexive dans une activité professionnelle qui est prise dans des tensions et des paradoxes en permanence. Donc cette conception praxéologique, elle est forcément liée aux dimensions réflexives du travail social et elle permet de mettre à l'épreuve du réel les valeurs instituées pour les questionner et finalement construire une identité qui favorise un dialogue entre les valeurs du métier et puis les valeurs en acte. Donc c'est dans ce type de contexte que j'ai été sollicitée au démarrage de ma thèse, donc dans les deux associations dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour tenter d'apporter des éléments de réponse aux tensions éthiques et aux conflits de valeurs que les rencontraient les travailleurs sociaux. À ce moment-là, les travailleurs sociaux que j'ai rencontrés, ils appelaient à protéger la dignité humaine dans des contextes politiques qui étaient extrêmement répressifs, sans disposer de leviers pour le mettre en œuvre. Donc au cours des entretiens de la thèse, j'ai forcément accédé aux dimensions sensibles de l'activité professionnelle et j'y ai trouvé assez surprise d'y retrouver des inflexions militantes qui semblent de premier abord en opposition avec le positionnement apolitique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc j'ai fait l'hypothèse en m'appuyant sur les travaux de Lucienne Chibrac qui a fait sa thèse sur le service social d'aide aux émigrants sous l'occupation. Que la neutralisation axiologique, c'est-à-dire ce positionnement apolitique ou neutre, comme dans la démarche scientifique, il devait permettre finalement d'objectiver son positionnement professionnel et il pouvait permettre aussi de visibiliser les connaissances pointues que les travailleurs sociaux emmagasinent au fur et à mesure. Et je me suis dit, tout ça, peut-être que c'est un levier de lutte contre les injustices et que ça pourrait redonner au travail social sa dimension politique originelle, notamment en venant récupérer toutes ces connaissances de l'intérieur qui sont extrêmement précieuses et qui sont tout à fait complémentaires avec les connaissances scientifiques, mais aussi, on le verra plus tard, avec les connaissances expérientielles des personnes accompagnées. Et donc, les échanges avec les travailleurs sociaux ont donné à voir donc, des expertises accumulées, parfois en appui de ressources théoriques, il y a des travailleurs sociaux qui lisent, qui écrivent, mais aussi au contact des gens. Voilà, ils parlent beaucoup des gens, comme ils les nomment. Dans l'expérience du sensible qui ne s'enseigne pas dans les livres. On a beaucoup travaillé la dimension sensible au cours des réflexions collectives et la question des émotions dans le travail social, puisque ça nous apprend beaucoup de la manière d'accompagner les personnes. Et donc les travailleurs sociaux, ils peuvent témoigner de ce que vivent les personnes accompagnées, ils peuvent témoigner de leur diversité, de ce qu'elles perçoivent du contexte, de la manière dont elles s'en accommodent ou dont elles en souffrent. Ils sont finalement les témoins privilégiés de ce qui devrait, me semble-t-il, orienter les prescriptions. Alors j'ai eu l'occasion fin août d'aller en Suisse, alors c'est pas pour vous raconter mes vacances, puisque c'était un colloque qui a été organisé qui s'appelait « Humaniser le travail social ». Donc j'ai eu le privilège d'y participer et lors de ce colloque, il a notamment été rappelé la nécessité d'une hybridation des savoirs scientifiques, professionnels, mais aussi expérientiels, c'est-à-dire qui émanent donc des personnes accompagnées. Ces savoirs, donc en lien avec une connaissance de l'intérieur, ils sont tout autant légitimes que les connaissances scientifiques ou les connaissances professionnelles. Et ils pourraient même nous permettre de mieux saisir pourquoi il est aujourd'hui parfois compliqué d'accompagner certains publics. Alors je continuerai en indiquant que les entretiens que j'ai menés ils ont aussi révélé une réflexion importante de la part des professionnels sur ce qui fonde l'éthique de l'accompagnement, avec une attention portée au temps de l'accueil, et aux premières rencontres avec les personnes accompagnées. Ça a vraiment été un espace-temps qui a été beaucoup, beaucoup abordé. Et donc, durant ce temps d'accueil, la communication, elle y revêt une dimension certes instrumentale. On s'y transmet des informations, on donne tous les outils de la loi de 2002. Mais c'est aussi un temps qui permet, du coup, d'éprouver la communication dans sa dimension relationnelle. Et donc, c'est la construction de cette relation de confiance, ou à minima d'alliance. Je ne sais pas bien si on peut vraiment construire une relation de confiance en réalité. C'est cette relation qui va fonder l'éthique de l'accompagnement et qui va permettre de recevoir et d'entendre cet autre différent de soi. Cette altérité radicale, comme l'écrivait Michel Hautès. Et donc ce point, il me permet de souligner que si les travailleurs sociaux, ils n'ont pas de prise sur leur contexte d'intervention, il leur reste toutefois possible de porter les valeurs humanistes du travail social en s'appropriant cet espace-temps de la relation où finalement se produisent les premières rencontres et où se construit petit à petit la relation et où les politiques, ben, finalement, n'ont pas de prise. L'espace de la relation, c'est un des résultats de ma thèse, hein, ça devient ainsi l'espace de l'agentivité. C'est là où les travailleurs sociaux se réapproprient le sens de leur métier en contexte contraint, en appui donc de leur connaissance de l'intérieur et de leur capacité à interagir avec parfois de grands exclus. Alors construire le champ des possibles dans et par la relation avec les personnes, ça pose donc l'accompagnement comme un processus. Ce vers quoi on décide d'aller avec la personne accompagnée, avec le souci permanent de soutenir une trajectoire particulière. Accompagner, ça n'est donc pas, ou ça n'est plus, pré-tracer le chemin pour guider tant bien que mal la personne accompagnée dans une trajectoire pensée pour elle, mais de coopérer ensemble dans le cadre de la relation d'accompagnement. Et donc à ce sujet, j'ai le souvenir récent d'une éducatrice spécialisée qui me parlait de son travail auprès des personnes exilées et qui m'a dit avec beaucoup de poésie, et je voudrais la citer, « Mon travail, ce n'est pas faire avec, mais être avec. » Et donc son contexte particulièrement contraint, celui de l'asile, hein, et les souffrances quotidiennes auxquelles elle fait face l'ont amenée à prendre soin de la relation d'accompagnement et à faire œuvre d'authenticité avec les personnes accompagnées pour leur donner à voir finalement les éléments sur lesquels elle n'a pas de prise, elle n'était pas là pour leur raconter des histoires, mais sans sous-estimer leur potentiel pour résoudre les conséquences de ce contexte répressif. Et donc cette professionnelle, elle a accepté de lâcher prise dans des situations pour lesquelles son expertise ne suffit plus. Et elle fait aujourd'hui le constat des multiples ressources dont disposent les personnes pour composer avec l'absence de solutions apportées par les dispositifs sociaux. Je pense que ça, il ne faut pas le négliger. Et donc cet exemple, il est vraiment remarquable parce qu'il donne à voir finalement les renoncements, les deuils que les accompagnants sont sommés d'engager pour déployer un accompagnement dans sa véritable acception. Et donc là, je voudrais citer Maëlla Paul, qui dans son ouvrage sur la démarche d'accompagnement décrit ses deuils de manière tout à fait remarquable puisqu'elle fait état du deuil de la tentation du pouvoir pour ou sur l'autre, du deuil de la toute-puissance, du deuil de la solution qui le maintiendrait dans l'expertise, du deuil de la décision prise à la place de l'autre mais qui ferait gagner, pense-t-il, du temps et nourrirait son besoin d'efficacité, du deuil de la pure rationalité quand les situations humaines relèvent de la singularité, de la complexité et d'une dimension existentielle qui ne peut s'évacuer donc par la technicité, du deuil de la reconnaissance s'il travaille réellement à sa propre inutilité. La relation d'accompagnement, ben, ça consiste donc à être avec et à aller vers dans le cadre d'une démarche qui valorise autant, voire plus, le processus que le résultat. Et donc les réflexions profondes que la professionnelle dont je viens de parler et ses collègues ont conduites sur leur posture d'intervention, eh bien ça leur a permis de prendre acte que l'espace de la relation, c'était finalement donc le seul espace-temps où elle pouvait véritablement avoir prise. Un espace-temps préservé où l'indicible peut se verbaliser et où dans cette parole déposée, les personnes peuvent devenir ou redevenir sujet de leur existence. Et donc puisqu'il est question de relations, ce type de réflexion, il ne peut pas se soustraire à une connaissance de soi en tant que professionnel, avec en toile de fond du positionnement éthique une exigence permanente d'autoréflexivité. Bon, alors d'abord se dire qu'ici dans la salle, on n'a pas toutes et tous les mêmes cadres de référence et qu'on n'interagit pas avec la diversité des publics de la même manière. On le fait en fonction de ce qu'on est. Donc finalement, la construction du soi professionnel, elle se construit au contact du réel, de ses leviers, de ses contraintes, mais aussi de ce que nous sommes individuellement et de ce que nous sommes au regard de nos différentes appartenances sociales et professionnelles. On n'est pas que des professionnels. Donc ce positionnement dans l'action, il se déploie donc au regard des valeurs qu'on a intériorisées au cours de notre vie professionnelle et personnelle, mais aussi au regard des normes qui nous ont permis d'entrer dans la profession. C'est cette articulation finalement qui construit la représentation professionnelle du métier. Donc on va avoir une exigence d'autoréflexivité qui va permettre d'apprendre à se connaître pour progresser avec une altérité, on l'a vu, parfois radicale. Et donc, il est important de souligner que tout ça, ça s'opère uniquement dans l'espace de la relation avec l'autre, mais aussi la relation avec soi. Donc on va avoir l'équipe, on va avoir les pairs avec qui on va pouvoir échanger sur tout ça dans des espaces informels ou dans des espaces dédiés qui vont finalement devenir des espaces intersubjectifs qui vont être criblés de valeurs, de normes et dans lesquels les interactions sociales sont vécues comme importantes. Donc tout ça, ça va contribuer à la construction d'une image de soi, d'un soi professionnel qui se transmet et se transforme grâce à ce que Jourot nomme l'éthos discursif. On discute beaucoup dans le travail social. Donc il ne peut pas y avoir de construction du soi professionnel sans un espace de socialisation. Et donc ce dialogue, qui est inscrit donc, dans une perspective systémique, j'ai essayé de le mettre en œuvre donc, dans le champ de l'asile, en m'appuyant sur un instrument conceptuel qui est celui du développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités, dont j'aimerais vous dire quelque chose. J'arrive au bout, je pense que ça va être bon. Le temps file, décidément. Alors, donc si je devais faire un nouveau point d'étape, je rappellerai que les travailleurs sociaux, ils disposent, on l'a vu, de ressources réflexives dans la relation pour être suffisamment proches des personnes accompagnées et suffisamment à distance pour construire des réponses adaptées aux problématiques des personnes et aux enjeux du contexte. Donc cette posture, elle nécessite à la fois donc, des connaissances technico-juridiques et des compétences relationnelles, mais aussi une réflexion sur soi et sur les autres, ce qu'on vient de dire. L'espace de la relation d'accompagnement, de par sa nature donc instituante, il apparaît aussi comme un espace où les travailleurs sociaux peuvent retrouver du pouvoir d'agir, à condition de mettre en œuvre collectivement des garde-fous à la proximité relationnelle qui est requise pour accompagner dans des systèmes qui mettent en tension les valeurs du métier. Alors je propose pour poursuivre ces réflexions de vous présenter très brièvement l'approche centrée sur le développement du pouvoir d'agir de Yann Le Bossé. Et je vous prie de m'excuser du coup pour cette synthèse qui est forcément mutilante, mais je vous invite du coup à le lire parce que c'est vraiment intéressant. Alors tout d'abord, poser que l'approche centrée sur le pouvoir d'agir, elle vise à créer les conditions de l'action pour rompre avec le sentiment d'impuissance qui peut être causé par des contextes d'intervention contraints. Cette démarche, elle ambitionne finalement d'élargir humblement ses marges de manœuvre. Elle refuse donc l'hypothèse du grand soir qui vise à n'agir que sur les facteurs structurels qui empêchent la personne d'avancer, autrement dit à n'agir que sur les éléments du contexte. Et elle refuse également l'hypothèse des carences qui focalise uniquement sur les manques de l'individu et qui peut contribuer à une double victimisation chez la personne accompagnée, notamment quand il lui est demandé de se mettre en mouvement malgré les déterminismes qui l'en empêchent. Et donc la démarche, elle entend finalement articuler donc, des facteurs structurels et des facteurs personnels dans la perspective de changer le monde au quotidien. Et là, je cite Yann Le Bossé. Elle s'inscrit donc dans l'idée de processus qu'on a défendu jusqu'ici, puisqu'elle ne vise pas l'obtention d'un résultat précis, mais la restauration d'un mouvement d'enfranchissement pour permettre à la personne accompagnée de sortir de la situation incapacitante. Elle va nécessiter donc de prendre en compte à la fois les éléments du contexte, les caractéristiques des personnes concernées, mais aussi ses enjeux, ceux des autres acteurs qui gravitent autour d'elle et qui sont impliqués dans la situation. Donc l'approche, elle s'appuie sur un modèle conceptuel en quatre axes que je ne vais pas développer parce qu'il me manque beaucoup de temps, mais en gros, il y a toute une première étape où on va repérer les éléments du contexte. On va repérer les acteurs qui sont concernés par le problème, donc qui ont à vivre avec la souffrance, leurs enjeux, les acteurs impliqués, donc qui gravitent autour de la personne. Et puis après, il va y avoir tout un processus de problématisation avec les personnes accompagnées pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait problème dans la situation. Tout ça, ça va nous permettre progressivement de co-construire avec la personne des pistes d'intervention qui ne sont pas forcément miraculeuses, mais qui permettent juste de se mettre en mouvement. Et puis la dernière étape, qui est une étape de conscientisation qui va permettre de revenir avec la personne sur ce qui s'est passé pour essayer d'ancrer ce qui a fonctionné et puis essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Donc je vous invite, à si ça vous intéresse, à lire l'article qu'on a écrit avec des travailleurs sociaux à ce sujet-là. Il y a un exemple qui est assez édifiant à ce sujet. Et donc je vais conclure, puisque le temps passe et qu'on m'a dit qu'il ne restait plus beaucoup de temps. Donc je conclurai en disant que la réflexivité sur soi, sur les autres et sur l'environnement, avec et pour les personnes accompagnées, ça constitue finalement une exigence éthique qui autorise à mettre en tension un contexte contraint et puis vraiment problématique, avec l'idée d'une vie bonne pour et avec les autres dans des sociétés justes, pour citer Ricoeur. Alors sans se désolidariser du cadre prescrit, la réflexion collective dans des espaces dédiés, alors l'analyse des pratiques, la recherche-action ou d'autres types d'espaces réflexifs, eh bien, ça permet de repérer ensemble les petites marges de manœuvre et de se rappeler que même dans les accompagnements les plus complexes qui ne semblent produire aucun résultat tangible, l'éthique du care, eh bien, ça a une valeur inestimable. Donc, si je reprends les travaux de Didier Schwint, je souhaite ici défendre l'idée que la pratique éthique soutenue par une posture réflexive, elle ne peut être réellement émancipatrice que si elle combine une éthique de la relation avec une éthique du dispositif et une éthique du système sociopolitique. C'est ce que j'ai voulu défendre en tout cas. Et donc la réflexivité, elle permet de ne plus penser pour mais avec, en prenant acte que les personnes accompagnées, elles disposent donc de savoirs expérientiels qui constituent une ressource essentielle pour mieux comprendre les situations. Ces savoirs expérientiels articulés, on l'a vu, au savoir professionnel dit expert, sont une des clés pour dépasser ces situations où on reproche aux personnes accompagnées de ne pas adhérer à l'accompagnement. Alors pareil, j'ai le souvenir d'une psychologue récemment qui me dit « adhérer, ça colle ». Et du coup, c'est bien contradictoire avec les injonctions à l'autonomie. Donc j'aimerais ouvrir la réflexion en proposant d'ajouter encore de la complexité, je suis désolée, en croisant donc ces savoirs expérientiels et experts avec les savoirs scientifiques. Et donc, outre les enjeux de production de connaissances sur le travail social, cette articulation, elle me semble relever d'un militantisme pragmatique qui vise à visibiliser les souffrances et difficultés auxquelles les travailleurs sociaux sont quotidiennement confrontés. Alors aujourd'hui, on parle encore de neutralisation axiologique dans le travail social, donc on dit qu'il faut être neutre, etc. Même si je constate que les conséquences délétères des contextes politiques et institutionnels amènent finalement plus souvent qu'on ne le croit les professionnels à remettre en cause cette prétendue neutralité pour dénoncer les injustices sociales, ce qui à mon sens est tout à fait congruent d'ailleurs avec les valeurs humanistes du travail social. Et donc ces valeurs qui font de l'identité donc des professionnels, elles sont intrinsèquement liées aux enjeux éthiques qui sont aujourd'hui largement portés par la Haute Autorité de Santé. Donc il me semble dans ce cadre qu'il n'est finalement pas question de neutralité, mais plutôt d'un processus d'objectivation qui va être soutenu donc par la réflexion collective, par le croisement des savoirs et par donc finalement cette diversité des points de vue qu'ils proviennent donc des professionnels, des personnes accompagnées ou de la communauté scientifique. Et donc paradoxalement, les visées de neutralisation axiologique du travail social, si on les compare aux exigences d'objectivité de la démarche scientifique, bon, qui d'ailleurs depuis quelques années intègre aussi le point de vue situé et subjectif du chercheur, eh bien, elle pourrait devenir, dans une visée politique, un levier de lutte contre les injustices sociales, avec l'idée donc de préserver l'éthique de la relation d'accompagnement en contexte contraint. Donc, je ne peux que souscrire à l'idée de développer ou de maintenir des espaces de réflexion collective à propos des pratiques d'accompagnement, en donnant place à la diversité des points de vue et des connaissances, sans hiérarchie, ce qui ne va pas sans rappeler d'ailleurs les processus démocratiques qui sont également complètement congruents avec les valeurs du travail social. Donc de quoi me permettre de conclure en disant qu'accompagner ne peut se soustraire au fait de changer le regard qu'on porte sur l'altérité. Voilà, et je vous remercie.